Vous écoutez France Musique.
Bonjour, c'est le matin des musiciens, bien sûr. Bonjour à tous. Je reprends, si vous le voulez bien, le principe de l'émission de la semaine dernière. Thème et ramification. Je vous rappelle que nous étions partis pour cette série qui va connaître plusieurs maillons au cours de cette saison. Nous étions partis d'une proposition que je vous faisais. La proposition ou le thème était le mouvement lent, l'andante, très très beau mouvement d'ailleurs, du deuxième concerto pour piano, opus 102 de Dmitri Chostakovitch, une œuvre de 1957, moins connue que son premier concerto, celui avec trompette, qui lui est une œuvre des années 30, 1933, dans un style très différent de Chostakovitch. Mais ce qui est intéressant, je le disais, je vais légèrement me répéter pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, quoi qu'il y ait le podcast qui pourrait vous renseigner, ce qui est curieux avec ce mouvement lent du deuxième concerto de Chostakovitch, écrit pour son fils, Maxime, eh bien c'est qu'il ressemble à pas mal de choses, ce qui n'est pas une surprise chez Chostakovitch comme chez beaucoup d'autres compositeurs, mais qu'il a un côté assez Rachmaninov, au point même que je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'une sorte de parodie de la part de Chostakovitch, de parodie de ce grand compositeur et notamment des mouvements lents de ses concertos pour piano. On pense bien sûr à celui du deuxième concerto notamment. Je ne sais pas parce que, vous savez, Chostakovitch, plus on regarde de près sa musique, plus on s'aperçoit qu'elle est cryptée, qu'elle est chiffrée, qu'il y a du palimpseste et que souvent, il y a du double sens et des informations qu'il faut aller chercher sous la surface des choses. D'ailleurs, j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans l'émission avec la sonate pour alto et piano qui figure à ce programme. Je vous propose de réentendre ce mouvement lent, comme la semaine dernière, ce mouvement lent du deuxième concerto de Chostakovitch, mais cette fois dans une autre version, une très belle version, assez différente. Vous vous souvenez que la semaine dernière, j'avais choisi la version de Theodor Courensis qui dirigeait les cordes de l'orchestre de chambre Mahler, le Mahler Chamber Orchestra, à la manière d'une polyphonie, par exemple pour les Vêpres orthodoxes, ces musiques de Tchaïkovski, ces musiques de Rachmaninov, dont je vous ai fait entendre quelques extraits la semaine dernière, et on sentait qu'il entendait dans cette partie de cordes et dans cette polyphonie à la fois le souvenir de la musique de la Renaissance et à la fois, bien sûr, le souvenir de ces grandes partitions qu'ont écrites Tchaïkovski, Rachmaninov et quelques autres au cours du 19e et du 20e siècle. Voici Andrei Korobeynikov, qui est au piano avec l'Orchestre symphonique de Lahti, dirigé par Oko Kamu. Thank you. très belle version, il me semble, de ce mouvement lent de l'Andante du deuxième concerto pour piano, opus 102 de Dimitri Chostakovitch, avec cette sonorité si étrange dans sa musique, qui est assez vaste, évidemment, et assez diverse. Mais là, je ne connais pas grand-chose qui ressemble à ce point à du Rachmaninov dans l'œuvre du grand Dimitri. Et c'était une grande version aussi, qu'on peut tout à fait mettre au même niveau que celle de Kourentsis, même si elle ne dit pas la même chose, hein, en particulier au Kokamo, à la tête de l'Orchestre symphonique de Lahti, avec Andrei Korobeynikov au piano. Ça ne dit pas la même chose. Je vous expliquais que Kourentsis, en tout cas à mes oreilles, me semblait avoir entendu et retrouvé dans la sonorité des cordes l'émission vocale d'un chœur qu'on peut imaginer, puisqu'évidemment ça n'est pas écrit pour chœur, mais je peux tout à fait l'imaginer transcrit pour chœur, comme d'ailleurs cela est le cas pour des tas d'œuvres orchestrales, instrumentales, qui trouvent ensuite une version chorale, et on va en parler tout de suite après ce qu'on va entendre. Mais il y a là peut-être plus quelque chose qui va vers l'adagio de cordes, et cela, eh bien, je vous le mettrai en perspective dans un instant, après avoir écouté ceci qui me semble être quand même une sorte de camarade esthétique. Thank you. camarade esthétique ou frère de mélancolie, les deux, mon général, peut-être. Cette troisième gymnopédie d'Éric Satie me semble être une sorte de possible souvenir qui était dans l'oreille de Chostakovitch lorsqu'il a écrit son concerto pour piano. Il y a évidemment bien d'autres connexions. On en a entendu la semaine dernière les mouvements lents des concertos 3 et 5 de Beethoven, bien sûr, entre autres choses. Mais ça, c'est une possibilité. Et la manière dont ce pianiste interprétait cette gymnopédie me semble aller encore plus dans le sens, peut-être on dirait plastique, minéral, comme cela, de ce que faisait, en tout cas, Kourentsis la semaine dernière dans le mouvement lent de ce concerto de Dimitri Shostakovich et Reinbert de Lehu, qui est un merveilleux musicien, chef d'orchestre et un compositeur aussi, je crois, et un pianiste. Peut-être pas un pianiste virtuose, mais un pianiste avec une sonorité qui est assez magique, je dois dire, et qui joue Satie comme il ne faut probablement pas le jouer. Mais au fond, qu'est-ce que c'est jouer Satie? Moi, j'ai envie de cette version parce qu'elle arrange, au fond, mon affaire ce matin. Mais il est certain, lorsqu'on entend les interprètes qui ont connu Satie, que cela ne se jouait pas comme cela. Mais pourquoi pas, quand c'est fait, quand le point de vue du pianiste est aussi aigu et surtout tenu jusqu'au bout. Et ça, c'est ça qui compte, au fond, c'est d'aller au bout d'une interprétation, peu importe quelle qu'elle soit, ce qu'elle est, mais qu'elle aille au bout et au fond de sa logique, et ça me semble être le cas, avec cette sonorité profonde et presque planante, d'ailleurs, comme au-dessus du son de ce merveilleux musicien. Ça a été publié chez Philips, je crois qu'il y a des rééditions chez Decca. En tout cas, c'est disponible au catalogue, et je vous recommande vraiment, même si c'est tout à fait exogène dans la discographie d'Éric Satie, je vous recommande cet enregistrement donc de ce pianiste, Reinbert de Lehu. Si vous ne comprenez pas le nom, parce qu'il y a plusieurs W, plusieurs U dans ce nom-là, ce sera sur le site internet qui est en train de remplir au fur et à mesure Flora Sternadel. Nous allons entendre maintenant ce à quoi m'a fait penser la façon dont Oko Kamu dirigeait les cordes de son orchestre symphonique de Lahti tout à l'heure dans le deuxième concerto de Chostakovitch. Je vous disais que par rapport à Kourentsis qu'on entendait la semaine dernière, qui était dans quelque chose d'un peu marmoréen, d'un peu polyphonique, de vocal, au sens polyphonie, vêpre et liturgie orthodoxe, eh bien, Kamu le fait, ce mouvement-là, en tout cas dans la partie d'orchestre, il le fait plus comme une sorte d'adagio pour cordes, hein, quelque chose de plus lyrique, de plus élégiaque. Évidemment, puisqu'il s'agit d'une musique qui fait penser à de la musique chorale et que je vous parle d'un adagio pour cordes, m'est venu à l'idée, et bien que l'adagio pour cordes de Barber existait aussi dans une version chorale, c'est un des exemples de ces transcriptions qui fonctionnent. Il y a plein d'autres choses qui peuvent fonctionner comme ça. Je me demande si les métamorphoses pour cordes de Strauss seraient au fond pas chantables, du moins en partie, peut-être pas le cycle complet. Il faudrait vérifier les tessitures et tout cela. Si cela marcherait, Gérard Pesson, vous entendez sur cette antenne, Gérard Pesson a fait par exemple une très très belle version de l'Adagietto de la 5e symphonie de Gustav Mahler pour chœur a cappella. Et Barber lui-même a réalisé un Agnus Dei. Voici encore peut-être une comète qui se détache de l'objet principal de cette émission, de ce concerto de Chostakovitch pour piano. Thank you. L'Agnus Dei de Samuel Barber, qui était chanté par les Sixteen, le groupe dirigé par Harry Christophers. Vous me direz, cette musique donne tout à fait envie de l'entendre transcrite pour cordes. Eh bien, manque de peau. Vous l'avez compris, évidemment, c'est l'Adagio pour cordes, qui d'ailleurs, à l'origine, c'est une histoire de poupée russe, d'une certaine manière, puisque l'Adagio pour cordes de Barber est à l'origine le mouvement lent de son quatuor à cordes. Ce qu'on oublie souvent, et d'ailleurs, lorsqu'on le joue à quatre archets, il perd peut-être ce côté sirupeux que lui ont donné tant d'enregistrements, qui se sont un petit peu trop laissés aller, on va dire, dans le genre élégiaque. Et là, ce qui est bien, je trouve, dans cette version des Anglais, là, qu'on vient d'entendre, c'est qu'elle est un petit peu sèche, un peu objective. Et je trouve que ça marche plutôt assez bien avec ce type de musique qui n'a pas besoin d'en rajouter. Barber, donc, transcrivant une pièce pour cordes, la partie de cordes du mouvement Lan Shostakovich qui appelle la musique chorale, et puis surtout qui rappelle Beethoven, ça je vous l'ai dit. Et il y a une autre œuvre très importante dans la carrière de Shostakovich, non seulement parce qu'elle est la dernière, mais aussi parce qu'elle est formidable et extraordinaire. Toutes les dernières œuvres des compositeurs ne sont pas formidables. Il faut se méfier de ce genre de lieu commun. Et cette sonate pour alto, elle cite Beethoven, et elle cite notamment de Beethoven le mouvement inaugural de la sonate dite « Au clair de lune », bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe derrière cette sonate? Eh bien, il se passe beaucoup de choses. D'abord, c'est une œuvre que Shostakovich écrit l'année de sa mort, en 1975, sur son lit d'hôpital, qui allait devenir bientôt quasiment son lit de mort. Il l'écrit en juin-juillet, et il meurt quelques jours, quelques semaines après. Et cette œuvre, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait du chiffrage, du cryptage dans l'œuvre de Shostakovich très très souvent, y compris d'ailleurs dans des œuvres qu'il a écrites pour contrer la censure, c'est-à-dire pour que la censure ne se rende pas compte du véritable propos. Tout est comme ça, à double sens souvent. Et dans cette sonate pour alto et piano, il y a, outre ce souvenir beethovenien, il y a également des citations textuelles des 15 symphonies de Shostakovich, c'est-à-dire qu'il a vraiment conçu cette œuvre comme un tombeau, comme son propre tombeau. Vous savez que les tombeaux, ce sont des œuvres que des compositeurs rendaient en hommage à d'autres compositeurs morts. Et là, au fond, ce que fait Shostakovich, c'est graver, inscrire sa propre musique dans ce tombeau musical. Alors, il est difficile peut-être à l'oreille de reconnaître ces passages, mais en tout cas, c'est là vraiment. Et puis, il y a, et ça on en parlera après, il y a aussi quelque chose qui est très touchant, c'est que Shostakovich cite sa suite opus 6 pour deux pianos, une œuvre de jeunesse, je crois qu'il avait 17 ans lorsqu'il a écrit cela, c'est aussi une manière pour lui de boucler la boucle entre sa jeunesse, sa mort prochaine, et puis les maillons de ses symphonies qui, évidemment, ont été écrites pendant toute son existence. Écoutez cette sonate intégralement. J'ai parfois, assez souvent, diffusé cette sonate. Je me suis aperçu que je vous faisais entendre, en général, le dernier mouvement, qui est déjà assez long. Mais j'ai eu envie, aussi parce que c'est une œuvre relativement cyclique, où les éléments se retrouvent d'un mouvement à l'autre, en tout cas entre le premier et le dernier, j'ai eu envie de vous la faire entendre pour une fois en entier. C'est une demi-heure de musique, mais je crois que c'est une demi-heure de musique qui passe très, très facilement. Voici Lawrence Power, qui est un très bon altiste britannique, accompagné au piano par Simon Crawford Phillips. Thank you.
Thank you. Thank you.
l'ultime œuvre de Dimitri Chostakovitch, la sonate pour alto et piano, qui est une importante œuvre, me semble-t-il, longue, une demi-heure, une grande, grande sonate, très développée, avec à la fois ce souvenir beethovenien, très clair, avec la citation de la fameuse sonate dite au clair de lune, et puis, de manière plus cryptée, notamment dans le premier mouvement, que Chostakovitch comparait une nouvelle, d'ailleurs, hein, enfin, une novella, comme on dit en anglais, qui n'est pas une nouvelle, d'ailleurs, c'est plutôt un petit roman, c'est entre la short story et le novel. La novella, c'est une, on va dire, une nouvelle développée, comme La mort à Venise, par exemple. Et il a inscrit dans cette œuvre des citations exactes de beaucoup de ses œuvres, notamment de ses symphonies, et aussi le souvenir, je le disais, de cette œuvre de jeunesse qu'on va entendre maintenant. Maintenant, la suite pour deux pianos, opus 6 en fa dièse mineur. Après que je vous aurais dit que l'interprète de cette version était Lawrence Power, qui est un homme comme Lawrence d'Arabie, n'est-ce pas ? Et Simon Crawford Phillips au piano pour cette très très belle œuvre. Alors, cette suite pour deux pianos, ça aussi, c'est une œuvre moi, que j'aime énormément et qui a comme particularité eh bien, d'avoir été l'une des sources mémorielles, pour parler un peu de manière compliquée, l'une des sources mémorielles de Chostakovitch pour cette dernière œuvre. Je vous expliquais tout à l'heure qu'en plus donc, de toutes ces citations personnelles, auto-citations, eh bien, il avait véritablement voulu indiquer qu'il bouclait la boucle et donc il savait qu'il allait mourir, hein, puisque dans les dernières semaines de sa vie, c'est là qu'il a pu écrire encore cette sonate pour alto. C'est toujours intéressant d'ailleurs les œuvres écrites après une grave maladie, je pense au trio de Schoenberg, après sa crise cardiaque par exemple. Et évidemment, les œuvres ultimes sont toujours... On les regarde avec un regard spécial. Voici cette suite à deux pianos. Il avait 16 ans, Chostakovitch. On la joue quasiment jamais. On joue le concertino, qui est une jolie œuvre, mais ça, à mon avis, c'est une œuvre autrement plus profonde. La voici par deux pianistes qui s'appellent Ufuk et Bahar Dürdünk. Thank you. Les trois mouvements parmi les quatre de la suite en fa dièse mineure pour deux pianos, opus 6 de Dmitri Chostakovitch. Nous avons sauté d'une certaine manière la deuxième de ces quatre pièces, une danse fantastique. Vous avez entendu le prélude, le nocturne et le final, et vous avez surtout retrouvé évidemment les thèmes qui traversaient la sonate pour alto et piano que nous écoutions précédemment. Tout ça dans le cadre de cette émission d'aujourd'hui, thèmes et ramifications à partir du mouvement lent, l'andante du deuxième concerto pour piano et orchestre de Chostakovitch, opus 102. Je vous retrouve la semaine prochaine avec Vincent Varnier. Nous allons continuer notre exploration du répertoire concertant pour orgue. Mais pour l'heure, je voudrais remercier l'équipe qui était autour de moi ce matin. Frédéric Potteri, Emmanuel Rose, Cyril Svetosevitch, Laura Sternadel qui m'a aidé à préparer cette émission et Géraldine Prutner qui l'a réalisée. À la semaine prochaine.